Isabelle Kosik pour document cadre sur les orientations en matière d'attribution de logements locatifs sociaux.
Oui, merci Monsieur le Président. Donc vu l'heure, je vais aller assez rapidement. Simplement, c'est un document qui a énormément d'importance et qui a donné beaucoup de travail au service de la cohésion sociale et à un certain nombre de partenaires, puisque nous avons été plus de 40 partenaires, des élus, des services de l'État, des bailleurs, des associations, à faire des propositions pour ce document cadre au cours de la conférence intercommunale du logement. Alors simplement, un petit rappel réglementaire, parce que tout ça émane d'obligations législatives, la loi Allure en 2014, la loi Égalité et Citoyenneté en 2017, et la loi Élan, donc votée récemment, mais qui ne remet pas en cause à la fois l'existence de la conférence intercommunale du logement et les responsabilités qui lui incombent. Alors, quelques éléments de diagnostic pour rappeler ce qu'est le parc locatif social sur la métropole. L'offre sociale sur la métropole, c'est 25 000 logements aidés, c'est-à-dire que ça représente 23% des logements de la métropole. Ce sont 11 bailleurs sociaux sur le territoire, 8 communes qui ont plus de 3 500 habitants et qui sont donc soumises à la loi SRU avec l'exigence d'un minimum de 20% de logements sociaux. Une offre concentrée sur 3 communes, Metz, Montigny-lès-Metz et Voipy, même si depuis la mise en œuvre du PLH, un certain nombre d'efforts ont été faits par un certain nombre de communes. Il n'en reste pas moins que, pour l'instant, bien évidemment, la grande majorité se situe sur ces 3 communes. Et 37% des logements sociaux sont en quartier prioritaire de la politique de la ville, qui aura une incidence d'ailleurs sur les orientations que nous allons prendre. Quelles sont les caractéristiques principales de ces logements? D'abord, 90% de ces logements sociaux sont collectifs. On a ces dernières années commencé à construire des maisons en bande, etc., mais ça reste bien sûr une offre largement collective. Une majorité de logements dits familiaux, puisqu'on a 70% de logements sociaux qui sont des T3 et des T4. Or, il faut avoir en tête qu'aujourd'hui, la demande, elle est plutôt sur des logements plus petits. 54% du parc a été construit avant 1974. Là aussi, ce n'est pas sans impact sur la nécessité de la réhabilitation, notamment en matière de performance énergétique. Et enfin, 60% des logements sociaux sont à bas loyer, 80% en quartier politique de la ville et 53% hors des quartiers politiques de la ville. Alors, qui sont les demandeurs? Fin 2007, 7600 demandes étaient en attente, dont 43% qui proviennent de ménages déjà logés dans le parc social et qui souhaitent donc muter, évoluer, soit vers un logement plus petit ou vers un logement plus grand en fonction de la composition familiale, ou encore en changeant de quartier ou de commune. Les jeunes et les personnes seules prédominent dans la demande. C'est ce que j'ai rappelé tout à l'heure par rapport à l'offre qui est plutôt majoritairement sur des logements dits familiaux. Et, élément important, plus de 6 ménages sur 10 sont en dessous du seuil de pauvreté. Alors, en effet, ce sont des ménages précaires qui occupent le parc social. 38% des ménages ont des ressources qui sont inférieures à 40% des plafonds HLM. Une part plus importante, bien sûr, dans les quartiers prioritaires. Des personnes qui, à 55%, ont plus de 50 ans. Des personnes seules, pour 42%, à proportion égale avec des familles avec enfants qui représentent 40% des locataires. Mais on a quand même une part significative de personnes seules. Alors, quelles sont les orientations du document cadre? Ces orientations sont de 4 natures. J'y reviendrai rapidement. Il s'agit de fluidifier les parcours résidentiels. Il s'agit de favoriser le développement d'un cadre partenarial et partagé pour la gestion des attributions. Il s'agit de garantir l'accès au logement social pour tous les publics et d'assurer les équilibres sociaux et territoriaux dans le parc social à travers une stratégie commune de peuplement. Il faut construire du logement social sur l'ensemble des communes, mais après, il faut regarder ensemble quel type de peuplement. Alors, sur la première orientation, fluidifier les parcours résidentiels, qu'est-ce que ça veut dire? C'est bien sûr poursuivre le développement d'une offre de logements aidés qui évolue également en fonction de la nature des demandes, vieillissement du parc, plus grande importance des personnes seules, donc ça demande une adaptation de l'offre, comme par exemple transformer des grands logements en petits logements, favoriser les mutations au sein du parc social, donc effectivement là aussi, regarder avec l'ensemble des bailleurs comment faciliter le parcours résidentiel des ménages. La deuxième orientation vise à garantir l'accès au logement social pour tous les publics. C'est la mise en œuvre du plan logement d'abord. Vous savez que la métropole a été retenue dans le cadre de sa réponse à un appel à projet qui a pour objectif de favoriser la production de logements pour des personnes en grande difficulté. C'est l'accompagnement, par exemple, des pensions de famille chez certains opérateurs. C'est aussi le fait de favoriser l'accès au logement pour certains publics, comme par exemple des jeunes sortant de prison ou des personnes en alternative à l'hospitalisation psychiatrique. C'est aussi satisfaire les demandes de logement social émanant des publics prioritaires. J'y reviendrai parce qu'on parle beaucoup des publics prioritaires. Et donc, effectivement, c'est quelque chose qui est imposé par l'État et qui, parfois, peut, en tout cas, poser des problèmes sur la question du peuplement. C'est aussi assurer les relogements qui sont issus du renouvellement urbain sur l'ensemble de la métropole. Vous savez qu'on a des projets en rue qui auront pour impact notamment la démolition de certains immeubles. Il faudra trouver des relogements pour ces familles. Je fais un focus sur les ménages prioritaires, qui sont effectivement, dont l'obligation est inscrite dans la loi Égalité et Citoyenneté. On voit un certain nombre de définitions, les personnes en situation de handicap, les personnes qui sortent d'hébergement, les personnes victimes de violences, les personnes qui vivent des périodes de chômage de très longue durée, qui sont dans des habitats indignes. Il y a là donc une liste qui est proposée par le Code de la construction et de l'habitat. C'est une définition assez large, mais les bailleurs peuvent effectivement ensemble identifier une liste commune pour travailler sur les ménages prioritaires. L'orientation 3, c'est donc le développement d'un cadre partenarial et partagé pour la gestion des attributions. Ce plan partenarial est prévu par la loi en 2019. Nous allons donc travailler avec l'ensemble des bailleurs pour se donner un certain nombre de critères communs. C'est bien sûr améliorer la coopération entre les bailleurs et les réservataires, parce qu'il y a au moins deux types de réservataires qui sont les communes. Vous savez, quand la métropole finance des logements qui sont construits dans telle ou telle commune, le maire de la commune a 20% des logements pour attribuer. Les réservataires, c'est aussi le 1% qui finance un certain nombre d'opérations. C'est bien sûr assurer le suivi et le pilotage de la politique d'attribution. Et enfin, la quatrième orientation, c'est assurer les équilibres sociaux et territoriaux. C'est ça, au final, l'objectif extrêmement important, qui peut être contraignant et qui n'est réalisable qu'à partir du moment où on va travailler avec l'ensemble des bailleurs. Le premier objectif, c'est permettre l'accès à l'ensemble du parc de logement social à ce qu'on appelle les demandeurs les plus précaires, qui font donc partie de ce qu'on appelle, de façon un peu technocratique, je l'avoue bien, le premier quartile. On doit pouvoir proposer, vous allez un peu plus loin ? On doit pouvoir proposer donc à ces personnes, à hauteur de 25% de ces demandeurs, une attribution hors des quartiers politiques de la ville. On donne là ce que signifie, par exemple, le premier quartile. C'est une personne dont le revenu n'excède pas 564 euros par mois. Donc 25% des demandeurs de logement social ayant les plus bas revenus vont devoir se faire proposer des logements hors des quartiers politiques de la ville. Et le pendant, c'est effectivement que 50% des deuxième, troisième et quatrième quartiles, donc les personnes un peu moins modestes, se voient proposer à 50% des attributions en quartier prioritaire. Donc c'est effectivement un objectif de mixité sociale. Ce n'est pas un objectif facile à atteindre. Ça nécessite notamment que dans les quartiers prioritaires, ce qui concerne les services, et je pense notamment à l'école, fasse l'objet d'un certain nombre de plans d'investissement. Parce que quand une famille s'implante dans un quartier, la première chose qu'elle vous demande, c'est dans quelle école iront nos enfants. Donc ça, c'est les deux obligations qui sont effectivement inscrites dans la loi Égalité et Citoyenneté et qui doivent pouvoir être mises en œuvre grâce à un travail partenarial entre tous les bailleurs. Et donc la dernière, dernière slide, c'est effectivement ce qu'est la CIL, hein, simplement un rappel de l'organisation du document cadre des attributions d'une convention intercommunale d'attribution entre les bailleurs et d'un plan partenarial de gestion de la demande. Voilà, je vous remercie.
Merci Isabelle donc, d'avoir résumé ainsi ce document cadre qui a d'ores et déjà été validé par la conférence intercommunale du logement du 12 septembre 2018. Est-ce qu'il y a des questions à cet instant? Alors, Monsieur Lebeau, ensuite Walter Kurzmann, Monsieur Lebeau et Monsieur Toulouse.
Monsieur le Président, juste en avant-propos, parce que je ne suis pas exprimé sur le point, parce qu'il y a plein de personnes, je tiens à féliciter les services et vous-même pour le projet que vous avez porté. Merci. Concernant ce point-là, je vais me permettre de faire un tout petit cavalier, si vous me serez le plus court possible. Si vous me laissez 2 minutes, s'il vous plaît, pour parler du logement social, qui dit logement social, Metz Territoire Habitat. Metz Habitat Territoire, excusez-moi. Et s'il vous plaît, vous pouvez rappeler votre...
Allez-y, mais
il y a des attitudes qui sont déplaisantes dans cette assemblée. Et Monsieur Toulouse en fait partie. Donc, et surtout de l'attribution des logements. Je veux dire, on a lu cet été abondamment de choses et une grille d'attribution. Donc, je voudrais savoir ce que vous en pensez, Monsieur le Président, de cette grille d'attribution. Et deuxième élément, ce qui nous a encore plus choqués, c'est qu'on a appris qu'il y avait eu 2,5 millions d'euros de malversations. C'est ce qui... s'il vous plaît... Mais c'est ce qu'on a lu dans la presse. C'est ce qu'on a lu dans la presse, c'est ce qu'on a cru comprendre. Et ce qui est le plus embêtant dans une assemblée, je pense que le propos est libre, et que si les propos sont plus libres dans cette assemblée, et si on ne peut pas demander des explications, je comprends que Madame la Présidente soit toujours embarrassée et sur la défensive. Moi, ce que je demande, c'est des éléments d'explication sur ce dossier. Premièrement, Monsieur le Président, donc c'est que pensez-vous des informations qu'on a eues dans la presse? Et deuxième élément, que pensez-vous des propos tenus par Madame la Présidente et relayés par la presse écrite sur les malversations qui n'auraient fait l'objet d'aucune information à cette Assemblée et à ce jour d'aucun dépôt de plainte? Donc je voudrais avoir des propos circonstanciés, et si vous n'avez pas les éléments ce soir à nous délivrer, je souhaiterais ardemment que sur le prochain conseil, et je crois que ça fait au moins 4 conseils, qu'on demande qu'il y ait un point inscrit à l'ordre du jour sur cet organisme pour qu'il y ait un peu de transparence, parce qu'au fur et à mesure des révélations, on pense que la transparence n'est pas de mise et que Metz Habitat Territoire est de plus en plus opaque. Je vous remercie.
Il y a Monsieur Kurzmann.
Dans le point précédent a été évoqué le PLU de Peltre. J'aurais pu, dans cette présentation du PLU de Peltre, indiquer que la commune comptait 730 logements, dont 20% de logements sociaux. Et donc, je voudrais témoigner du fait que, finalement, par rapport à ce que disait notre collègue Isabelle Kosik, accueillir dans une commune de plus petite taille, 2000 habitants par rapport à 120 000 habitants à Metz, c'est quand même, on n'est pas dans la même échelle. C'est pas si compliqué que ça. La population qui habite dans les logements de Metz Habitat Territoire ou de l'OJS, puisque les deux bailleurs sociaux sont représentés, est parfaitement intégrée à la population communale depuis déjà des années. Et on se félicite du taux de rotation qu'il y a sur ces logements, qui n'est pas aussi important que ça, parce que les gens se plaisent, puisqu'il s'agit de logements de qualité. Et donc, il est tout à fait possible, je le dis à la tâche de mes collègues de communes de plus petite taille d'accueillir des populations comme ça. Néanmoins, c'est quand même une difficulté parce qu'ils ont, il y a des besoins spécifiques au niveau social et il faut très largement s'appuyer sur le réseau des assistantes sociales du département et ça nécessitera peut-être au niveau de la métropole aussi de mettre en place un outil comme ça. Pour répondre aussi à une remarque qui ne m'était pas faite mais pour laquelle je me sens concerné, je participe régulièrement à la commission d'attribution des logements, que ce soit à MHT ou à Logiest. Je voudrais dire qu'elle se fait dans des critères parfaitement transparents et que s'il y a des préférences, elles ne le sont que quand il y a égalité entre deux dossiers. Et que le maire, effectivement, lorsqu'il est présent ou le représentant de la commune, a le choix, a le dernier mot, mais il a le dernier mot parce qu'il connaît sa population, parce qu'en amont, il a rencontré les personnes et... Je le vois pour Voipy, je le vois pour Metz. Il y a une parfaite connaissance des élus qui sont présents dans ces commissions pour l'attribution de ces logements. Et ce n'est pas le fait du prince ou ce n'est pas un fait électoraliste où je te donne un logement et tu penseras à moi pour la prochaine élection. Ce n'est pas du tout ça. C'est une parfaite connaissance des logements. Et croyez-moi, c'est quelquefois très difficile parce que Mme Cossic l'a rappelé, on est dans des populations qui sont dans des situations très difficiles, avec des niveaux de vie très inférieurs aux critères d'entrée dans les logements sociaux, avec quelquefois des gens qui sont dans des qui nous viennent de foyers d'hébergement et on doit choisir entre un foyer d'hébergement ou une famille qui est dans un logement social de petite taille depuis très longtemps et qui aimerait bien avoir un logement plus important. Et si on ne connaît pas correctement les dossiers, on ne peut pas faire des bons choix.
Voilà, merci Monsieur Toulouse.
Merci Monsieur le Président. Bah écoutez, quand j'ai vu Emmanuel Lebeau, je m'en doutais, j'ai dit je vais intervenir quand même pour clarifier deux, trois trucs. La première, et je remercie Monsieur le maire de Peltre de vous avoir tous assuré de la transparence dans laquelle on travaille en commission. Moi je suis moi-même président de la commission d'attribution des logements hors Metz. Il y a une transparence complète et je vais te donner un scoop à Monsieur Lebeau, mais on lui a déjà répondu, mais il a du mal à entendre les choses comme ça. Effectivement, on prend toujours en compte la voix des maires des communes concernées. Dernièrement encore, c'était des appartements sur Marly. On a des pavillons sur Gravelotte qui vont pas tarder à arriver. Il est tout à fait normal qu'on prenne attache des maires et qu'on leur demande est-ce que vous connaissez dans votre ville des gens qui répondent aux critères du logement social et qui ont besoin de logement social, que vous les fixez dans votre commune. Nous n'en avons peut-être pas forcément connaissance à Metz Habitat Territoire, puisque naturellement, on ne vient pas déposer un dossier de logement social comme ça. On pose la question, ça me paraît tout à fait logique. En tout cas, moi, je souhaite que ça continue à fonctionner de cette manière-là. Alors, on peut appeler ça du favoritisme, oui, effectivement. Non, ce n'est pas du favoritisme, c'est un travail d'élu de terrain. Et en tout cas, je peux vous garantir que ça fonctionne sans aucun problème et sans aucune pression. J'ai jamais vu un élu qui a voulu nous imposer quelqu'un qui était en dehors des clous ou quelqu'un qui ne gagnait plus ou dont la composition familiale n'était pas correcte. Enfin, ça se passe plutôt bien. Je veux dire, à Voipy, on a aussi beaucoup de logements et beaucoup d'attributions. À chaque fois, avec les gens de Voipy qui viennent là, bah, ça se passe en bonne intelligence. Deuxième chose, j'entends parler de malversation. Alors, vous n'avez peut-être pas l'habitude, mais ça fait 10 ans. Hein, quand on a fêté avec Dominique Gros et l'équipe municipale 10 ans ensemble, bah, avec Emmanuel Lebeau, on a fêté aussi 10 ans ensemble. La fête était plus triste, mais bon, c'est comme ça, 10 ans. On a pris l'habitude. Il recule devant aucune infamie, mais c'est comme ça. 2 millions, un peu plus de 2 millions, effectivement, de alors, j'emploie pas le terme magouille, mais on a détecté, effectivement, des erreurs pour à peu près 2 millions à 2 millions 5. De malversation. Mais il aurait pu dire vol. Mais heureusement, le maire de Metz travaille pas à MHT, donc on peut pas l'accuser de rien. Juste, s'il avait poursuivi l'article du journal, il aurait vu que la plupart de ces litiges ont été résolus par des transactions, plutôt que d'aller au tribunal. Et ça, je remercie l'ancien directeur général qui est parti au mois de juillet. On a préféré travailler sur les transactions pour s'éviter des procès qui auraient été longs, coûteux, des déballages qui n'auraient pas été toujours agréables ni pour les uns ni pour les autres. On a signé avec la plupart des entreprises, dont la dernière au dernier conseil d'administration, des transactions. Et ces transactions, bien sûr, on peut parler du montant, on peut parler de ce qui s'est passé, mais il est hors de question qu'on puisse nommer les entreprises qui sont incriminées. Sinon, bah, il n'y a plus de transactions possibles. Voilà, dont acte, MHT n'a pas été spolié, l'argent a été récupéré. Et l'argent a été rendu, mais MHT n'a pas été spolié. Effectivement, il y a eu des erreurs qui ont été faites, mais elles ont été corrigées. Merci, Monsieur le Président.
Bien, je ne voulais pas ajouter grand-chose à tout ce qui a été dit, et je crois que je partage la majorité de ce qui a été dit. Simplement dire que nous avons une échéance majeure, qui est celle du rapprochement entre deux offices, entre Metz Habitat Territoire et l'Office public de HLM de Montigny. Et qu'aujourd'hui, il s'agit pour nous de réussir donc cette fusion qui est prévue par la loi et que nous voulons mettre évidemment en œuvre dans la sérénité. Et la sérénité, ça veut dire que cela puisse, on puisse faire en sorte de rassurer les agents, à la fois de Metz Habitat Territoire, qui sont évidemment en droit d'être rassurés, mais aussi ceux de Montigny-les-Metz. Et je sais que Lucien Vetch, avec l'ensemble des collègues et la présidente de la commission, ils travaillent évidemment avec nos services. Et je remercie d'ailleurs Bénédicte Michel du sérieux avec lequel les choses sont menées dans ce contexte-là. Sachez que de toute façon, nous serons attentifs. J'avais demandé des audits. Ils ont commencé à se réaliser sur l'ensemble des problématiques, quelles qu'elles soient, y compris au niveau ressources humaines, mais des choses sont en train de s'apaiser. Et également sur le niveau financier, bien évidemment, je m'y suis engagé ici même et nous continuerons, bien entendu, dans un esprit de transparence. Donc je vous ai écouté également et aussi entendu quant aux articles. Moi, je n'ai pas commenté les commentateurs, comme disait un ancien Premier ministre, que j'aimais beaucoup. Mais néanmoins, je crois que nous aurons aujourd'hui, après avoir réussi, je l'espère, dans les meilleures conditions possibles, donc cette fusion, dans l'intérêt de nos agents, mais aussi, surtout, d'ailleurs, dans l'intérêt de ceux qui sont ressortissants de nos offices, de notre futur office métropolitain, eh bien, nous réaliserons les audits nécessaires pour résorber toute problématique, quelle qu'elle soit, à la fois sur le plan des ressources humaines, mais également sur le plan financier. Donc, vous pouvez compter sur cet engagement que je prends ce soir à nouveau devant vous. Voilà. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions ? Il n'y en a pas. Je vous en remercie.